Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous et bienvenue au Salon du Livre à Paris, où cette émission est donc enregistrée, diffusée en direct, un Salon du Livre dédié à l'Europe, au terme d'une semaine où le monde politique britannique et tous ceux sur le continent qui s'intéressent à son avenir n'ont eu qu'un seul mot à la bouche, le fameux B-word, et c'est péjoratif, le Brexit, qui tourne à l'obsession. 3 ans pour mettre au point ce qui n'est jamais qu'un préambule aux accords qui devront régir les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. 3 ans où on a vu ce système parlementaire britannique tant admiré sombrer dans une sorte d'anarchie, les 2 grands partis politiques se fracturaient à l'infini et la première ministre subir les pires outrages de son propre gouvernement et de ses propres troupes. Et puis, jeudi dernier, humiliation presque fêtée comme une victoire, voilà que Theresa May obtient de son Parlement le droit de demander un report de la date butoir qu'elle avait elle-même fixée au 29 mars de cette année. Un délai, mais pourquoi faire ? Quelques semaines, des mois, des années ? Quelle va être la réponse des 27 qui se réunissent jeudi prochain à Bruxelles, les 27 visiblement fatigués de cet interminable feuilleton? Quelles conséquences donc pour tous les partenaires? C'est ce que nous allons explorer ce matin. Mais partons d'abord aux antipodes. Dans ce petit pays, la Nouvelle-Zélande, membre du Commonwealth, 5 millions d'habitants, sujet de Sa Majesté, la Reine d'Angleterre, qui en est le chef de l'État, la Nouvelle-Zélande frappée au cœur par un groupe d'ultra-droite, des suprématistes blancs, qui ont assassiné en pleine prière des musulmans dans 2 mosquées d'une petite ville de province. Je commence par vous présenter nos invités, bien sûr. Et d'abord Robert Franck, professeur émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Merci d'être avec nous. Florence Fauché, professeur à Sciences Po au Centre d'études européennes et chercheuse à Oxford. Vivien Pertuso, chercheur associé à l'IFRI. Et Adrien Rode, vous êtes maître de conférence en civilisation britannique et du Commonwealth à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Adrien, on s'intéresse fort peu, trop peu d'ailleurs, ces grandes îles qui sont pour nous vraiment au bout du monde. La Nouvelle-Zélande était considérée jusqu'à avant-hier comme l'un des pays les plus sûrs du monde, sauf sur les terrains de rugby, bien sûr, on connaît les All Blacks. Et on voit que la population reste interloquée par ce qui s'est passé.
Oui, effectivement, le mot qui revient le plus souvent chez les commentateurs, si on regarde la presse locale, c'est inconcevable. C'est un événement absolument inattendu. C'est le premier acte terroriste en Nouvelle-Zélande. Il n'y a jamais eu d'attentat de ce type-là avant. Et effectivement, l'ultra-droite ou l'extrême-droite n'existe pas. Dans ce pays, il n'y a pas de mouvement politique organisé qui se présente aux élections ou pas. Il n'y a pas de structure d'extrême droite.
Mais il y a néanmoins une mouvance parce que il me semble qu'il y a eu des affiches dans l'université d'Auckland, la capitale, justement exaltant la race blanche et en disant halte à l'immigration, parce que l'histoire évidemment de la Nouvelle-Zélande comme de l'Australie, ce sont à l'origine des colonies de peuplement. Je crois qu'un tiers de la population en Nouvelle-Zélande est née à l'étranger.
Quasiment, oui. Ça approche de 30% de la population néo-zélandaise qui sont des immigrés de première génération. Donc. Et l'immigration est donc sujette de débat de plus en plus. Donc c'est l'un des pays occidentaux, c'est quasiment, après l'Australie, c'est le pays occidental qui compte le plus d'immigrés de première génération dans sa population.
Donc, mais à la différence de l'Australie qui a été peuplée de bagnards, au 19e siècle. C'est pas le cas de la nouvelle de bagnards anglais, écossais, irlandais à l'époque.
Irlandais, effectivement, oui.
Énormément d'Irlandais. Oui. C'est pas le cas de l'Australie, je crois. La Nouvelle-Zélande, je veux dire.
Non, en effet, la Nouvelle-Zélande était donc est devenue une colonie britannique en 1840, a été établie comme colonie de peuplement. Où donc des migrants britanniques étaient incités à aller s'installer. Et pendant plus d'un siècle, c'était un pays qui, en même temps, voulait attirer très activement autant d'immigrés britanniques que possible pour accroître sa population, développer son économie, etc., mais qui était très fermé au reste du monde, et qui était extrêmement fermé à toute immigration potentielle asiatique, par exemple, ce qui n'a changé qu'il y a même pas 50 ans. Depuis les années 1970, à l'inverse, c'est un pays qui est très ouvert à une immigration, alors une immigration choisie, une immigration utile pour l'économie.
Avec des quotas ?
Avec effectivement des quotas, pour pouvoir entrer, avoir un visa de travail, vous devez correspondre à des besoins qui sont clairement identifiés. Mais dans ce cadre-là, c'est un pays qui accueille bien volontiers un nombre important d'immigrés venus notamment d'Asie. On estime que quasiment 13% de la population néo-zélandaise est d'origine asiatique.
Mais avec une très faible communauté musulmane, hein, je crois que moins de 1%.
Oui, c'est autour de 1%, effectivement.
Moins de 50 000 personnes.
C'est ça, c'est minuscule.
Et donc, il y a dans un gouvernement de coalition, oui, il y a le parti nationaliste néo-zélandais qui a été évidemment parmi les premiers à condamner cet horrible carnage.
C'est ça. Donc le gouvernement actuel en Nouvelle-Zélande est une coalition de trois partis. Le principal parti, c'est le Parti travailliste, qui est un parti de centre-gauche, plutôt social-libéral, assez classique. Le Parti vert, qui sont donc les écologistes de gauche. Et le parti New Zealand First, donc Nouvelle-Zélande d'abord, qui est assez difficile à situer sur l'échiquier politique, mais qui est un parti populiste, qui fait appel principalement à un électorat relativement âgé, à la fois blanc et maori, beaucoup de maori parmi l'électorat de ce parti, qui se concentre sur la défense des services publics, mais aussi sur l'argument qu'il faut réduire très nettement l'immigration, et qui a exprimé à de nombreuses reprises une hostilité à une immigration asiatique jugée trop importante. Mais le débat d'immigration, c'est surtout porté sur l'immigration asiatique, hein, pas sur les musulmans qui, comme vous disiez, sont une minorité absolument infime dans la population néo-zélandaise.
Robert Franck, je rappelle que vous êtes professeur émérite à Paris 1, Panthéon, Sorbonne, spécialiste en particulier de l'histoire de la Grande-Bretagne et donc du Commonwealth. La Nouvelle-Zélande fait partie de ce Commonwealth et encore une fois, on a vu en Grande-Bretagne en particulier la résurgence en fait d'une extrême droite et une montée de crimes racistes en Grande-Bretagne. Je crois plus 17% de crimes racistes, tantôt antisémites, tantôt islamophobes, plus 17% de 2017 à 2018. Alors, évidemment, c'est à ne pas confondre avec les gens qui ont voté pour le Brexit, mais comment est-ce que cette mouvance ou cette tradition, cette expression politique peut être analysée à la lumière de ces chiffres ?
On retrouve un point commun dans tout le Commonwealth. Comme cela a été dit, l'extrême droite comme parti, c'est extrêmement faible. En revanche, il y a une mouvance, il y a une opinion diffuse, extrémiste, que l'on peut trouver aussi bien en Nouvelle-Zélande qu'en Grande-Bretagne. Alors, le lien avec le Brexit est très, très, très indirect, hein. Ce qu'on peut dire, d'après certains témoignages, c'est que avant la campagne du Brexit, pendant la campagne du Brexit et ensuite, il y a eu effectivement tout un vocabulaire, je dirais, xénophobe, raciste, et qui a pu donc empoisonner, si vous voulez, le climat et donner quelques encouragements aux plus enragés, aux plus radicaux ou aux fous. D'autre part, c'est vrai que ces haines raciales, on les trouve partout dans le monde, hein, pas seulement en Grande-Bretagne et pas seulement dans le Commonwealth.
Oui,
c'est
on vrai est que tristement placé en France pour le savoir.
Le poids de la, exactement, mais le poids de la religion, si vous voulez, fait que c'est souvent des haines religieuses et interreligieuses plus affirmées, même si elles existent par ailleurs. ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'en Grande-Bretagne ou ailleurs, dans ce monde britannique, on n'a pas peur du mot race. Et précisément, ce mot race est souvent employé pour être antiraciste, précisément. Hein. Et le multiculturalisme dont on parle pour la Grande-Bretagne et qui contraste avec, disons, une laïcité à la française, au départ, lorsque ce multiculturalisme s'institutionnalise, même à partir de la loi de 1976, c'est pour reconnaître des groupes ethniques, pour faire en sorte qu'effectivement on reconnaisse les races, mais pour qu'il y ait égalité des races. Auparavant, il fallait bien comprendre qu'à Londres, on trouvait des annonces d'appartements à louer avec l'idée que hommes et femmes de couleur non désirés. Ça devient interdit à partir de là. Donc, en gros, ce multiculturalisme institué se voulait antiraciste. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on en est revenu. Ce sont les travaillistes qui ont mis ça en 76. Ce sont les travaillistes qui reviennent là-dessus à partir de Tony Blair en 2001, après les émeutes raciales, où on voyait les de ce multiculturalisme institutionnalisé, et travaillistes, puis ensuite Cameron et les conservateurs sont revenus là-dessus et précisément réfléchis sur la citoyenneté britannique, sur les tests de citoyenneté pour les nouveaux migrants, etc., etc.
Un mot encore sur le Commonwealth qui a été utilisé par les Brexiteurs, comme on les appelle, ceux qui veulent absolument couper tous les liens avec le continent européen. Le Commonwealth est devenant, de façon sans doute un peu utopique, l'ancien empire qui se prêterait à toutes les traités commerciaux et qui permettrait au génie britannique de se répandre et de se développer à nouveau.
L'attachement des Britanniques au Commonwealth est très grand. Pour une première raison, c'est que, en gros, le Commonwealth, c'est une success story, c'est une belle histoire, si vous voulez. Hein. Comment le Commonwealth est au départ les colonies de peuplement, hein, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Dominion qui sont autonomes avant la Première Guerre mondiale, qui devient indépendant à partir de 1931. Et précisément, ce Commonwealth, ce sont des nations libres, indépendantes, égales entre elles. Après la Seconde Guerre mondiale en 1949, la déclaration de Londres insiste là-dessus. Et au fond, on avait deux boîtes. On avait les colonies de l'Empire et la boîte Commonwealth avec les États. Avec la décolonisation, les colonies devenues indépendantes vont passer d'une boîte à l'autre. Hein. Et de ce point de vue, c'est une décolonisation relativement réussie. Je dis bien relativement parce qu'il y a eu pas mal de problèmes sur lesquels on ne reviendra pas, en Inde, Palestine, etc. Mais c'est vrai. Bon. Et du coup, ça symbolise aussi chez les Britanniques cette vision mondiale sur les cinq continents. Hein, et donc l'Europe est un horizon un peu restreint. Mais ça crée aussi la nostalgie d'aujourd'hui. Il y a un article fracassant dans le Guardian lundi dernier de Kevin Rudd, ancien Premier ministre australien, un article fracassant où il dit croire que le Commonwealth va sauver le Brexit, c'est une cruelle illusion. Hein, et il montre qu'effectivement, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, c'est 65 millions. Qu'est-ce que compte ce marché par rapport aux 500 millions de l'Union européenne? Quant à croire que la Grande-Bretagne va pouvoir avoir une relation globale avec les États-Unis et l'Inde, un des pays les plus protectionnistes de la Terre, et bien sûr les États-Unis avec Donald Trump n'est pas tellement solidaire. Il faut bien comprendre que les populistes brexiteurs ont cru avoir la solidarité des autres populistes, y compris ceux de Trump, mais ils se trompent. Les populistes, par définition, parce qu'ils sont souverainistes, c'est chacun pour soi, et il n'y a aucune solidarité entre eux.
Alors, évidemment, il n'est pas question de confondre ces mouvements populistes ou même ces mouvements nationalistes avec ce groupe de suprémacistes blancs. Éric Scholl, bonjour. Vous dirigez Courrier International, notre partenaire. Et donc, ce tueur en particulier, qui avec une caméra fixée sur un casque, a filmé en direct et diffusé en direct pendant 17 minutes sur Facebook, ses exploits atroces. Donc ce tueur est un Australien et qui trimballe un bagage idéologique cosmopolite qui est très révélateur en fait de cette espèce d'internationalisation de cette théorie absolument fumeuse et que hélas on voit à l'œuvre, on a vu à l'œuvre très tristement sur tous les continents depuis quelques années.
Oui, effectivement, c'est un militant d'extrême droite qui est nourri de références internationales. Et les autorités bulgares, par exemple, hier, ont annoncé qu'elles enquêtaient sur les raisons qui ont conduit cet Australien de 28 ans à se rendre en Bulgarie. C'était en novembre dernier. Ce qui est certain, c'est que Brenton Tarrant montrait beaucoup d'intérêt pour les Balkans, une région du monde d'ailleurs où il s'était déjà rendu en 2016. Et sur les fusils de ce terroriste figurent des inscriptions à la gloire de personnages historiques des Balkans qui se sont opposés aux Ottomans. Il s'agit de références à des grandes batailles des peuples slaves et balkaniques contre l'Empire ottoman, raconte le quotidien bulgare Dvenik. Alors, autre élément troublant, c'est cette musique serbe que l'on entend sur la vidéo qui a été tournée dans la voiture du terroriste juste avant le massacre de Christchurch. Il s'agit d'une chanson à la gloire de Radovan Karadžić, le leader des Serbes de Bosnie, qui a été condamné pour crime de guerre par le tribunal de La Haye et qui d'ailleurs a fait appel. Eh bien, et dans le manifeste publié par le tueur, on retrouve également de nombreux éléments sur la balkanisation des États-Unis, la question du statut du Kosovo, autant de raisons d'ailleurs pour laquelle la presse locale serbe ou même en Croatie parle de filière balkanique au sujet de cet attentat en Nouvelle-Zélande. C'est ce que nous rapporte la version bulgare de la radio de Tchevele.
Alors, ce tueur a mis en ligne peu de temps avant de passer à l'acte un manifeste absolument délirant, 74 pages, où il parle beaucoup de la France.
Oui, il évoque notamment un voyage qu'il a effectué en France en 2017. Il raconte notamment comment il a fondu en larmes devant un cimetière militaire dans l'est de la France. Et l'homme s'interroge alors en lettres capitales dans ce manifeste, nous rapporte le journal The Australian. Pourquoi personne ne fait quelque chose? Pourquoi ne fais-je pas quelque chose? C'est là que j'ai décidé de faire quelque chose, poursuit-il, de mener le combat contre les envahisseurs moi-même. Alors, certaines de ses références à la France sont très actuelles. Il évoque Emmanuel Macron, un ex-banquier mondialiste et un anti-blanc, ou encore le Rassemblement National, un parti de Schiff Moll sur le retour. Mais il puise aussi dans l'histoire de France. Le quotidien australien The Advertiser mentionne par exemple le nom de Charles Martel, figure célébrée par les identitaires français pour avoir combattu les invasions arabes. C'était au 8e siècle. Côté américain, on trouve un nom qui, si on en croit en tout cas ce manifeste, a aussi très largement inspiré Brenton Tarrant. C'est celui d'une femme américaine, Candace Owens, dont le Washington Post a publié un portrait il y a quelques jours, c'était le 6 mars, un très long portrait de cette femme qui, nous dit le journal, est le nouveau visage du conservatisme noir, l'étoile montante de la droite nationaliste américaine, mais aussi une influenceuse de choc avec plus d'un million d'abonnés sur son compte Twitter, des vidéos qui sont vues par des millions de personnes sur YouTube. Eh bien, Candace Owens a créé le Blexit, à ne pas confondre avec le Brexit. Le Blexit, nous dit le Washington Post, c'est-à-dire un mouvement politique qui fait campagne auprès de la communauté noire pour que celle-ci cesse son soutien au Parti démocrate, car pour Candace Owens, il n'y a pas de doute, le seul qui vaille en politique, c'est Donald Trump.
Alors Donald Trump, qui est célébré donc par ce jeune Australien tueur, je le cite, le symbole de l'identité blanche renouvelée. Évidemment, le président des États-Unis s'est empressé de condamner les attaques, mais il a quand même minimisé. Dans sa réponse à des journalistes hier, il a minimisé les dangers de l'extrémisme blanc. Alors, en revanche, la Norvège se souvient avec horreur des massacres perpétrés par un maître à penser de ce jeune Australien.
C'est en tout cas comme ça qu'il le considère. On parle de Anders Breivik et personne n'a oublié comment c'était le 22 juillet 2011. Ce Norvégien de 32 ans avait commis un double massacre qui avait fait au total 77 morts. Arrêté le jour même, Breivik a été condamné à 21 ans de prison. Et le nom de cet extrémiste a bien apparu plusieurs fois dans ce fameux manifeste de Brenton Tarrant. Voici d'ailleurs le commentaire d'un journaliste norvégien du tabloïd Verdensgang. Après avoir commis son massacre, Breivik avait espéré une série d'attaques de l'extrême droite en Europe, mais ce sont surtout les attentats islamistes qui ont marqué le continent ces dernières années. Néanmoins, aujourd'hui, Breivik a eu sa réponse. Même remarque de la part du quotidien norvégien Aftenposten qui explique que la Nouvelle-Zélande a désormais son propre 22 juillet, la date du massacre commis par Breivik, et que le pays a certainement des leçons à tirer des expériences norvégiennes.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Florence Fauché, vous enseignez l'Europe à Sciences Po à Paris. Vous êtes chercheur à l'Université d'Oxford en Angleterre. Nigel Farage, le populiste haut en couleur qui a profité du Parlement européen pendant des années tout en pourfendant l'Union européenne, il était longuement député britannique, Nigel Farage a lancé ce matin une longue marche à sa manière pour essayer de ramener la classe politique britannique à son devoir, selon lui, c'est-à-dire véritablement passer à l'acte s'agissant du Brexit. Comment t'expliquer cette espèce de mouvement qui met en cause des partis politiques dont certains continuent, et notamment du côté du Parti conservateur, de réclamer le Brexit à haut cri, alors que la Première ministre, elle, s'apprête à exercer ce qui est vraiment un chantage sur des députés de son propre parti d'ici jeudi prochain?
Nigel Farage a fait de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne son fonds de commerce depuis fort longtemps, et c'est son parti UKIP qui a exercé depuis sa fondation au début des années 2000 une pression très importante sur le parti conservateur. Alors,
Farage n'a jamais été élu à la Chambre des communes. Hein.
Non,
il n'y a jamais parvenu.
Non, parce que dans le système électoral britannique, il est extrêmement difficile à un petit parti d'obtenir une représentation. C'est un système à un seul tour, et donc le premier arrivé emporte tout. Et ils ont réussi à obtenir deux élus il y a quelques années, mais c'était vraiment exceptionnel. Or, depuis la victoire du référendum, donc en 2016, le UKIP a en quelque sorte disparu. Farage a annoncé qu'il quittait la politique pour revenir et pour repartir et pour revenir. Mais la menace que faisait peser UKIP sur le parti conservateur semblait apaisée. Alors qu'il faut se souvenir que depuis les années 90, cette pression des Brexiteurs est ce qui a toujours empêché les partis conservateurs véritablement de gouverner sereinement. On se souvient des déboires qu'avait eu en particulier John Major avec cette mouvance-là. C'est sous la pression aussi des Brexiteurs et avec l'augmentation du pouvoir de UKIP que Cameron a été amené à leur promettre d'organiser un référendum.
En pensant évidemment qu'il allait le gagner dans son esprit, c'est-à-dire rester dans l'Union. Mais venons-en à cette semaine dernière, cette semaine qui se termine, absolument incroyable sur le plan politique britannique. On voyait la Chambre des communes en ébullition, et on comprend maintenant que Theresa May va lancer une dernière manœuvre, ce sera mercredi prochain, pour faire adopter un texte, donc ce fameux accord négocié pendant plus de deux ans, un texte qui a déjà été retoqué deux fois par le même Parlement et d'abord par des députés conservateurs. Donc franchement, on y perd son anglais dans cette histoire.
L'accord de novembre aurait déjà dû être l'objet d'un vote aux communes en décembre. Anticipant une défaite qu'elle s'attendait à être cuisante, elle a décidé de repousser le vote une première fois à janvier. Donc première défaite en janvier, deuxième défaite plus récemment. Et elle suit une politique qui a toujours été la sienne, qui est de menacer de sauter du précipice. C'est « retenez-moi où je fais un malheur », et en espérant que grâce à ça, elle va finalement acculer un certain nombre de membres de son parti, et en particulier les Brexiteurs, à soutenir son accord en les menaçant, à l'heure actuelle, de sacrifier le Brexit. C'est-à-dire, soit vous acceptez mon accord, soit il y aura un délai d'une durée indéterminée, voire peut-être pas de Brexit.
Alors, est-ce qu'elle va réussir mercredi prochain et surmonter tous les échecs qui, dans l'histoire parlementaire britannique, sont quasiment sans précédent? J'ai demandé à Charles Grant, qui dirige à Londres le Centre for European Reform, si oui ou non Theresa May allait réussir son coup mercredi prochain. Sa réponse.
C'est possible, mais j'ai mes doutes. C'est possible parce que elle va dire aux eurosceptiques du IRG Group dans le Parti conservateur, si vous ne votez pas pour mon texte, puis je vais demander à l'UE qu'ils étendent l'article 50 pour deux ans. Et puis peut-être vous allez perdre votre Brexit. Alors votez pour mon texte. Ça, c'est un argument fort. Et si elle peut persuader le DUP, le Parti du Irlande du Nord, à suivre son deal, puis peut-être d'autres eurosceptiques vont aussi suivre son deal. Mais, à mon avis, il y aura au moins 20 ou 30 qui ne voteraient jamais pour le deal de Theresa May. Et il n'y aura pas assez de travaillistes à l'autre côté de la Maison de Commune qui vont voter pour. Peut-être seulement 2 ou 3 ou 4 travaillistes qui vont voter pour le deal. Alors, à mon avis, le deal va échouer.
Le deal va échouer, prédit Charles Brand, qui a, il faut le dire, pour tous ceux que ça intéresse, véritablement rédigé les meilleures analyses jusqu'à présent, au point d'en être épuisé lui-même, sur le Brexit. Vivien Pertuso, de l'IFRI, la seule certitude, en fait, c'est que le 29 mars prochain, une date décidée par les Britanniques, eh bien, ils seront toujours dedans.
A priori, oui. Il n'y a pas de raison que les choses changent d'ici la semaine prochaine. Et même si Theresa May arrivait à faire passer son accord la semaine prochaine, ce qui paraît, comme Charles Grant l'a dit, peu probable, de toute manière, il faudrait probablement une extension technique, au moins pour faire voter et ratifier l'accord au niveau du Parlement britannique, parce que s'il vote la semaine prochaine, ce n'est pas une ratification, c'est juste un vote. Et ensuite, il faudrait pareil, une ratification du Parlement européen, ce qui pourrait se faire jusqu'au mois d'avril. Donc oui, a priori, le 29 mars, les Britanniques seront toujours dans l'Union européenne d'une manière ou d'une autre.
Et jeudi prochain, réunion donc du Conseil des chefs d'État et de gouvernement à Bruxelles, est-ce qu'ils vont réagir à cette demande de délai de la part de la Grande-Bretagne?
Alors, réagir, oui, il n'y a pas de doute là-dessus.
Avec un certain énervement.
Voilà, un certain agacement. Voilà, au bout de 2 ans et demi, hein, quand même, ça fait 2 ans et demi que le vote a eu lieu. Donc oui, un certain agacement. La situation est très très difficile à lire du côté européen, parce qu'on a plusieurs publics, si je puis dire. On a un public technocrate, donc là vraiment la Commission européenne, qui elle se dit, j'ai tout fait, je ne peux plus rien donner, et maintenant c'est à vous, Britanniques, de décider ce que vous souhaitez faire. Donc ça, on l'a senti avec les dernières déclarations de Michel Barnier, nous on a tout donné, on ne pourra rien donner de supplémentaire. Au niveau des dirigeants européens, donc au niveau politique, là c'est très difficile à lire. D'un côté, on a ceux qui se disent un deal, un Brexit sans accord est quelque chose de très néfaste pour l'Union européenne, parce que ça pourrait montrer une forme de chaos au sein de l'Union européenne. À 2 mois des élections européennes, c'est quelque chose que les dirigeants politique ne souhaite pas.
À commencer par Madame Merkel.
Voilà, commencer par Madame Merkel. De l'autre côté, on a ceux qui se disent, on a tout donné, on ne peut rien donner de supplémentaire. Eh bien, non, on ne souhaitera pas un report, en tout cas pas un report, un long report, surtout si les Britanniques ne font rien de différent de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent.
Mais on a vu que le président du Conseil, donc le Polonais, Donald Tusk, lui, il a dit, mais non, accordons-leur un très très long délai. Parce que en gros, la procédure va continuer à s'enliser, et donc en fait, ils vont peut-être finalement se rendre compte qu'ils bénéficient au sein de l'Union européenne d'un bien meilleur statut que celui qu'ils obtiendraient, et surtout, évidemment, s'il y a pas d'accord à la fin.
Bah, en fait, pour comprendre, parce que c'est vrai que beaucoup ont été surpris des déclarations de Donald Tusk, qui disait qu'en gros, reportons de 21, alors pas 21 mois, mais reportons à un long délai. Si on se replonge dans un discours qu'il a donné en octobre 2016, donc peu de temps après le vote, il disait « Pour moi, la solution n'est pas un accord, un soft Brexit ou un hard Brexit, mais un hard Brexit ou un no Brexit ». Donc en 2016, pour lui, c'était « il y a la possibilité éventuelle que les Britanniques restent dans l'Union européenne ». Il l'a toujours dit, il a toujours montré son désappointement vis-à-vis du vote en 2016.
C'est pas lui qui décide.
C'est pas lui qui décide. Après, ce qu'il se dit effectivement, comme vous l'avez justement dit, c'est prolongeons de très très longs mois, etc. Et peut-être que les Britanniques vont se rendre compte que c'est pas si mal que ça d'être dans l'Union européenne. Après, le risque, et Charles Grant l'a mentionné, c'est que certains conservateurs notamment, et même certains élus du DUP, donc les Nord-Irlandais, se disent « Oh là là, mais si on prolonge de très longtemps, effectivement, le risque d'un no-Brexit peut arriver, et ça, on ne le veut pas. »
Robert Frank, toute cette histoire prouve que Madame May est évidemment politiquement très très affaiblie. Néanmoins, il y a toujours cette idée, cette espèce de bulle dans laquelle sont enfermés tous ceux qui s'intéressent à l'affaire en Grande-Bretagne, quel que soit le niveau de fatigue que l'on perçoit quand même à Londres par rapport à tout cela. Il y a vraiment un Brexit fatigue qui les frappe à leur tour.
Vous avez raison de parler de bulle. On a parfois l'impression que la grande négociation, c'est surtout une négociation entre Britanniques, comme si l'Europe n'existait pas, ou déjà n'existait pas, et comme si on ne se rendait pas compte parmi les Brexiteurs que finalement l'Union européenne est relativement unie face aux Brexiteurs. D'où ces votes un peu incohérents, parce que d'une part, la majorité, le 15 janvier, puis en mars, rejette l'accord, donc le deal, le compromis. Et ça se comprend, parce que pourquoi voulez-vous que les partisans du Brexit votent un deal sur le Brexit ? Pourquoi voulez-vous que les hard Brexiteurs votent un deal qui maintient finalement, à cause de la question irlandaise, le Royaume-Uni pour un temps indéfini ? Voilà. Et le lendemain, après avoir voté contre le deal, ils votent contre le no deal. Voilà. Oui. Alors comment on s'en sort ? Alors, d'où le troisième vote, ben oui, on s'en sort par un report. Mais on fait comme si l'Europe n'existait pas. Il faut que l'Union européenne accepte ce report à l'unanimité. Bon. C'est vrai que c'est là peut-être que les Européens peuvent un peu se diviser, qu'il peut y avoir toutes sortes de manœuvres. Il y a ceux qui pensent qu'après tout, un report, ça peut être bénéfique. Mais ne l'oubliez pas, il y a une certaine humiliation infligée par l'Union européenne aux Brexiteurs. S'il y a report et s'il dépasse le 30 juin, vous allez organiser des élections européennes. C'est du Kafka, là. Je veux dire, on est dans le surréalisme le plus complet. On est en train de faire le Brexit et les Britanniques seraient donc obligés de faire les élections européennes. Quelle va être la campagne à ces élections-là ? Et donc, vous voyez, c'est un peu humiliant de ce point de vue. Et ça peut énerver beaucoup de députés la semaine prochaine qui vont pas vouloir jouer
Avec une idée qui circule à Londres, c'est que d'accord, il va falloir participer à ces élections européennes, mais pourquoi ne pas prolonger le mandat des députés britanniques qui siègent pour le moment à Strasbourg et à Bruxelles? Mais ce qui est sidérant, c'est qu'on a vu dans le tout dernier vote de c'était quand d'ailleurs jeudi, 4 ministres du gouvernement de Madame May voter contre Madame May.
Tout à fait.
Et on voit les mêmes individus qui font des numéros de salto arrière d'un vote à l'autre. Comment s'y retrouvent-ils eux-mêmes ?
Si vous voulez, les Britanniques par rapport à l'Europe, ce sont des Européens authentiques, à l'unanimité ceux qui ont voté pour le Brexit, mais des Européens qui, à la différence des continentaux, non seulement se sentent nationaux, mais ils se sentent à part. D'où ce va-et-vient depuis 3 siècles entre Britanniques et Europe, du temps du système européen et puis du temps de la construction européenne. Des va-et-vient complets, donc des va-et-vient maîtrisés, contrôlés, dans le cadre d'un pragmatisme et d'un réalisme très, très britannique. Là, ce va-et-vient est devenu convulsion. Convulsion, et à quelques secondes près, on peut dire une chose et quelques secondes après, dire le contraire.
Et des convulsions, évidemment, à l'intérieur même des deux grands partis traditionnels. Comme Florence le rappelait, le mode de scrutin, évidemment, encourage ce type de géographie politique. J'ai demandé à Charles Grant hier s'il pensait que ces deux grands partis, au-delà du Brexit, en supposant que le processus se termine un jour, si ces deux grands partis pouvaient continuer à fonctionner de la même manière.
Absolument. Les partis politiques britanniques, les deux grands partis, ont usé. À mon avis, ils doivent se redéfaire. Ils vont exploser, ils vont se diviser. Ça commence à arriver déjà avec la création du The Independent Group, un petit groupuscule de quelques travaillistes et de quelques conservateurs. Mais ça peut continuer. Il y a 70 travaillistes social-démocrates qui commencent à s'organiser eux-mêmes au sein du Parti travailliste, qui pourraient peut-être s'éclater du Parti travailliste. Il y a d'autres conservateurs sur la droite et sur la gauche qui pourraient bien se diviser si l'autre côté prend la tête du Parti conservateur. Les deux grands partis ne correspondent plus aux grandes forces sociales, économiques, idéologiques, politiques. ils sont des coalitions qui ne peuvent pas continuer très longtemps, à mon avis.
Alors précisément, j'ai demandé à Charles s'il pense que ce mode de scrutin uninominal à un tour doit être modifié pour que le peuple britannique ait finalement une classe politique plus ajustée à ses propres priorités.
Le mode de scrutin rend très difficile la tâche d'établir de nouveaux partis politiques britanniques, mais quand même ça est arrivé avant. Nous avons eu le Parti travailliste qui est paru dans les années 20, il y a 100 ans. Nous avons eu le Parti social-démocrate qui, il y a 30 ans, est paru et qui a échoué, mais pas tout à fait, parce que ça a changé la face du Parti travailliste. Le Parti travailliste a dû se réformer beaucoup à cause de l'arrivée du Parti social-démocrate. Alors, ça peut changer le système politique britannique. À mon avis, ça va changer très tôt, parce que les députés se conservateurs de conservateurs se détestent beaucoup plus qu'ils détestent les travaillistes en ce moment. Et peut-être c'est la même chose au sein du Parti travailliste. La droite et la gauche se détestent plus qu'ils détestent les conservateurs. Et le système actuel ne peut pas continuer très longtemps, à mon avis.
Florence Fauché, cette classe politique britannique, cette génération de leaders politiques qui, au fond, se prête à une terrible caricature, comment réagit l'opinion publique au Royaume-Uni ?
C'est un paradoxe intéressant qui est que aux dernières élections de 2017, les deux grands partis, donc les travaillistes et les conservateurs, ont obtenu un de leurs meilleurs scores, 80% des suffrages exprimés, ce qui ne s'était pas passé depuis 40 ans quasiment, puisqu'on avait assisté à un déclin progressif de leur part en voix et la progression de partis nationalistes, des Verts, surtout des sociaux-démocrates et des libéraux-démocrates. Donc, un mode de scrutin qui, en même temps, leur a permis en 2017 d'avoir 80% des voix, mais aussi d'avoir 90% des sièges. Et c'est ce qui contribue à faire la force de ce système bipartisan, créant deux partis qui sont extrêmement diverses en interne, mais qui, en même temps, sont tenus ensemble par la nécessité d'arriver premier aux élections. Et donc, même si je suis entièrement d'accord avec les analyses qui ont été faites, la possibilité de division et d'éclatement du système politique britannique reste quand même largement gênée par ce mode de scrutin. En 2011, ils ont eu un référendum sur une réforme du mode de scrutin qui a été refusée. Donc, ils ont conservé ce système à un seul tour. En l'absence de réforme du mode de scrutin et en absence d'une implosion totale des deux partis qui sont effectivement maintenant divisés sur cette question transversale du Brexit qui solidifie beaucoup de choses, on voit mal comment ils vont s'en sortir. Je pense que ce à quoi on assiste à l'heure actuelle, c'est véritablement une crise sans précédent du système politique et institutionnel britannique, une crise des partis, mais une crise de la représentation, puisque en 2016, partie du vote pour le Brexit s'explique par un rejet du système politique. Or, le spectacle qui est donné à l'heure actuelle au Parlement ne peut guère encourager les électeurs britanniques à retrouver leur confiance dans les partis politiques, qui au contraire montrer leur incapacité à faire quoi que ce soit. Et une crise du leadership finalement également pour les deux partis, puisque que ce soit les travaillistes ou les conservateurs, leur équipe dirigeante et leurs dirigeants, qu'il s'agisse de Theresa May et de Corbyn, sont extrêmement contestés, extrêmement peu populaires finalement, à l'intérieur de leur parti, mais aussi dans l'ensemble du pays.
Robert Franck.
Oui, au-delà des partis, il y a une société en Grande-Bretagne extrêmement divisée. Je ne parle même pas de la question écossaise et irlandaise, même chez les Anglais et les Gallois. Il faut bien comprendre que c'est une unité dans cette société, et au fond, depuis la guerre civile sous Cromwell, c'est un success story de plusieurs nations qui sont unies. Pour la première fois, j'entends des collègues qui disent c'est l'affaire Dreyfus. c'est l'équivalent de l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire que...
C'est-à-dire des familles déchirées.
Des familles qui se déchirent à table, ils en ont parlé, hein, dès qu'ils en parlent, tout le monde se met dessus. On n'a jamais vu ça, donc on ne reconnaît pas son pays, donc c'est extrêmement profond et ça dépasse même les partis. Des clivages qui n'ont pas existé depuis le XVIIe siècle.
Ce qu'on a du mal aussi à comprendre de notre côté de la Manche, c'est pourquoi est-ce que Jeremy Corbyn, le leader du Parti travailliste, ne profite pas de l'affaiblissement incroyable de la Première ministre pour provoquer des élections législatives. On a l'impression qu'il ne veut surtout pas assumer le pouvoir, parce qu'en fait, lui, il veut sortir de l'Europe, mais la majorité au sein de son parti veut rester. Donc là aussi, accrochons-nous.
Corbyn est dans une position un petit peu compliquée. D'abord,
oui, certes, c'est poliment dit.
Certes, il appelle de manière répétée à des élections générales. Mais si on regarde les enquêtes d'opinion à l'heure actuelle, le Parti travailliste est loin derrière les conservateurs. Et la position extrêmement alambiquée de Corbyn sur le Brexit, sur l'accord, etc., est liée au fait qu'une partie de l'électorat traditionnel travailliste a voté pour le Brexit. Une partie de ses députés a été élue dans des circonscriptions qui ont voté pour le Brexit.
Mais donc, une majorité de ces députés sont plutôt pour rester.
Et une majorité de ses adhérents sont aussi pour rester.
Voilà, des adhérents, oui.
Jeremy Corbyn essaie de ménager la chèvre et le chou. Et
oui, il est beaucoup plus clair quand il s'agit de soutenir M. Maduro au Venezuela. Hein. Ça, c'est plus clair. Mais s'agissant du Brexit, c'est vrai qu'il navigue dans des circonvolutions. On a toujours dit les Britanniques, ce sont des pragmatiques. Vous allez voir ce que vous allez voir. Madame May, et c'est l'ouverture d'un papier terrible de The Economist de cette semaine qui rappelle que Madame May, il y a quelques jours, a dit « Nous allons prouver au reste du monde ce dont est capable le peuple britannique. » Et The Economist, le grand magazine libéral de Londres, dit « Eh bien, on a vu, nous sommes devenus la risée du monde. »
Oui, c'est une situation un peu paradoxale et un peu terrible d'assister à cette... J'ai parlé de la crise politique, mais ce qui rend les électeurs britanniques particulièrement frustrés, c'est aussi que pendant ce temps, depuis les deux ans que le Brexit est discuté aux communes, un certain nombre de promesses qui étaient incluses en quelque sorte dans le Brexit, qui étaient qu'il pourrait y avoir des investissements sociaux, notamment dans la santé, toutes les questions sociales, toutes les réformes sont en plan, sont abandonnées.
Le chancelier de l'Échiquier vient d'annoncer qu'il allait ouvrir les vannes, mais néanmoins, c'est vrai que le Brexit occupe le temps politique.
Le Brexit occupe le temps, mais il occupe aussi l'énergie et les finances du Royaume-Uni. Des investissements considérables doivent être faits pour se préparer au no-Brexit. On a vu des tentations de louer les services de compagnies de ferry qui n'avaient pas de ferry, de réorienter. Il faut effectivement également recruter des fonctionnaires des douanes. Il faut déplacer des fonctionnaires des différents services pour pouvoir travailler sur le Brexit. L'investissement en termes administratifs et la crise administrative que le Brexit entraîne est absolument considérable. Elle n'est pas nécessairement quelque chose dont les électeurs britanniques sont particulièrement conscients. Mais en même temps, cette préoccupation du gouvernement pour ces questions de Brexit et pour les négociations, etc., veut dire que les réformes sociales et les fonds qui sont à disposition pour notamment reconstruire en quelque sorte ou redresser le service de santé, qui est un service national, sont absents.
Et c'était d'ailleurs le grand mensonge des partisans du Brexit au moment de la campagne en 2016. On voyait sur les autobus rouges britanniques les 316 millions qui allaient être consacrés, au lieu d'aller à Bruxelles, iraient vers les services de santé. Vivien Pertuso, tout cela n'arrange pas non plus, il faut bien le dire, les dirigeants européens sur le continent. Il y a quand même maintenant un vrai embarras. Qu'est-ce qu'on va faire si toute cette histoire continue? Et plus encore, si jamais il reste, qu'est-ce qu'on fait?
C'est vrai que c'est pas très simple comme situation pour les Européens. Jusqu'à présent, le Brexit a occupé du temps politique à Bruxelles, mais pas tant que ça. En tout cas, moins que ce que j'aurais pu penser. Dans le même temps, les Européens.
L'équipe de Michel Barnier, voilà, avec une équipe. C'est très intéressant d'ailleurs. Un numéro 2, Sabine Weygand, une Allemande remarquable, et une équipe donc multinationale, une vraie équipe européenne.
Tout à fait.
Donc ça, c'est à signaler parce qu'on dit toujours ce qui ne marche pas. Mais donc là, d'une certaine manière, ça.
En fait, c'est vrai que ce qui a très bien fonctionné, c'est la capacité des Européens à s'unir derrière un mandat clair. Et ça, c'est une première presque, dans des négociations compliquées, extrêmement publiques, où on aurait pu voir des signes de désunion à différents moments, ça n'est jamais arrivé. Et on aurait pu se dire, comme ça n'est jamais arrivé et que le mandat était clair, ils auraient pu passer beaucoup de temps à réfléchir à leur avenir à 27. Ce qui s'est fait, et on l'a vu dans beaucoup de discours, finalement, ils ont commencé à réfléchir à leur avenir à 27, sans forcément que ce soit très concret, mais en se disant, de toute manière, les Britanniques sont sortis, ça peut, sur certains dossiers, nous retirer une épine du pied, on peut penser à la défense européenne notamment, et donc, on continue comme ça. Mais que se passe-t-il si jamais les Britanniques restent encore 20 mois de plus, voire ne quittent jamais l'Union européenne? Finalement, on se retrouve dans une situation où les Britanniques, qui étaient des empêcheurs de tourner en rond, mais aussi une épine dans le pied sur beaucoup de dossiers, vont rester dans l'Union européenne et vont rapporter tous les problèmes qu'ils apportaient quand ils étaient membres pleins de l'Union européenne.
Il ne faut pas être injuste non plus. Enfin, ils ont aussi accéléré certains processus quand ça les arrangeait.
Voilà, tout à fait.
Et notamment l'élargissement.
Tout à fait.
Avec ce paradoxe, c'est que quand eux, et ça a été l'un des ressorts du Brexit, on l'a presque oublié, c'était le réflexe anti-immigré, les immigrés dans leur esprit, étant les Polonais, les Roumains, etc.
Mais
qu'ils ont voulu faire entrer.
Tout à fait. Mais après, ce qu'il faut voir, c'est l'impact psychologique que ça pourrait avoir si les Britanniques restaient dans l'Union européenne. C'est pas totalement impossible. Hein. On va dire qu'il y a peut-être à peine 10% de chance, mais bon, c'est tellement rocambolesque cette saga du Brexit qu'on ne sait jamais. Mais ne serait-ce que d'avoir les Britanniques encore 20 mois de plus en tant que membres pleins et pas en tant que membres vers la sortie, c'est quand même quelque chose qui va frapper les esprits au niveau européen. Dans les négociations, ça va encore ralentir toutes les réflexions qu'on peut avoir sur l'avenir de l'Union européenne. Si on reprend les propositions qui ont été faites par la Commission européenne, par exemple, ils ont proposé 5 scénarios sur l'avenir de l'Union européenne. Aucun de ces scénarios n'envisageait les Britanniques à l'intérieur de l'Union européenne. Pareil, les propositions d'Emmanuel Macron. Ils n'envisagent pas forcément que les Britanniques fassent partie de l'Union européenne encore. Donc on se retrouve dans une situation où toutes les réflexions se font sur une Union européenne à 27, mais en fait on ne sait plus.
La difficulté étant que, évidemment, sur des grands chantiers cruciaux pour le continent, à commencer par l'immigration par exemple, les risques de division à nouveau au sein des 27 risquent d'exploser au grand jour, alors que, et vous le rappeliez à juste titre, le Brexit a permis une cohésion sans précédent.
Ah, c'est sûr que jusqu'à présent,
si ce ciment-là
disparaît, on ne sait pas ce qui peut se passer, effectivement.
Adrien Rode, vous nous avez expliqué avec beaucoup de clarté au début de cette émission comment la Nouvelle-Zélande en particulier, bien évidemment, réagit à cet atroce carnage qui, il faut le rappeler, a fait 49 morts, une cinquantaine de blessés, dont 20 blessés très graves. Donc on peut s'attendre à ce que ce bilan s'alourdisse. Comment, à votre avis, vu des antipodes de cette partie-là du Commonwealth, comment est-ce que ce Brexit est vu et comment est-ce que l'affaiblissement du système politique britannique est analysé?
Alors, il y a un certain paradoxe à ce niveau-là, qui est que pendant très longtemps, jusqu'à en fait à ce que le Royaume-Uni entre dans la CEE en 73, l'Australie et la Nouvelle-Zélande étaient vraiment les pays du Commonwealth qui étaient le plus proches du Royaume-Uni, qui s'alignaient sur le Royaume-Uni toujours en matière de politique étrangère, qui demeuraient dépendants commercialement de leurs relations avec le Royaume-Uni, vraiment par choix. Et pour les Australiens et les Néo-Zélandais, l'entrée des Britanniques dans la CE a été vraiment un choc. Ils ont dû s'adapter très rapidement. Et c'est notamment pour cela qu'ils ont commencé à s'ouvrir vers l'Asie et à développer leurs relations commerciales et diplomatiques avec l'Asie. Sauf que maintenant, bien sûr, on est plusieurs décennies plus tard, et que l'Australie et la Nouvelle-Zélande ne dépendent plus du tout du Royaume-Uni. Les échanges commerciaux avec le Royaume-Uni sont minimes.
Et c'est... avec l'Europe, avec l'Union européenne, pardon.
Avec l'Union européenne, un petit peu plus. Donc, et c'est vrai que pour eux, l'Union européenne est la porte d'entrée vers le Royaume-Uni. Donc, ils tiennent à leur relation avec l'Union européenne. Ils se précipitent quand même un petit peu moins pour rétablir des relations commerciales privilégiées avec les Britanniques. Dont
oui,
ils n'ont simplement
c'est donc
plus besoin.
L'ancien Premier ministre australien, ouais. Kevin Rudd, qui lui est sinophile
oui. C'est ça.
Et d'ailleurs, l'influence de la Chine pose à l'Australie, d'ailleurs ce serait l'occasion de vous inviter à nouveau, parce que c'est tout à fait passionnant de voir maintenant l'obsession australienne vis-à-vis de la Chine.
C'est
Il y a
ça.
D'ailleurs une très bonne série que je vous recommande, qui s'appelle Secret City, la saison 1, et qui explique ça fort bien. Revenons à cette interminable saga du Brexit. Robert Frank, jusqu'à quel point est-ce que le problème maintenant est de savoir comment sortir du processus plutôt que de comprendre son impact autant sur le Royaume-Uni que sur les 27 membres de l'Union européenne ?
Comment sortir de l'Union européenne ou comment sortir du Brexit ? C'est ça. On a l'impression que le compromis est impossible. On verra bien la semaine prochaine, évidemment. Mais même si la semaine prochaine, la Chambre des communes accepte le compromis, rien n'est fait, puisque tout est à négocier. Et en gros, le compromis est finalement impossible pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, entre ceux qui sont pour le Brexit, ils veulent un hard Brexit, et les autres, ils n'en veulent pas.
Et donc, Charles Grant nous rappelait à quel point ils se haïssent maintenant. Il y a un niveau d'animosité.
Ah, oui.
Il y a plus de fair play, ça c'est là, j'oublie.
Ce qui fait que s'il n'y a pas de compromis, c'est ou bien le no deal, ou bien un second référendum, ou des élections générales, mais comme vous l'avez dit, il faudrait qu'il y ait un changement. Et si les conservateurs restent au pouvoir, ça change pas. Ils ont des chances de rester au pouvoir sur les élections générales. Si ce sont les travaillistes, là, il peut y avoir une solution, puisqu'au fond, les travaillistes seraient assez favorables à une solution à la norvégienne. C'est-à-dire que le Royaume-Uni resterait dans le marché unique, donc plus de problème de frontières irlandaises, ça c'est réglé. Mais certains diraient, comment le Royaume-Uni, c'est pas la Norvège. Comment on serait dans le marché unique sans avoir voix au chapitre, puisque effectivement, il serait plus dans les institutions européennes. Donc, vous voyez, les contradictions continuent. Donc, tout est imprévisible. Une chose est certaine, c'est que le va-et-vient va continuer. Donc, c'est pas une histoire de quelques semaines, c'est pas une histoire de quelques mois, c'est une histoire de plusieurs années. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, si le Brexit se fait, il faudra envisager peut-être le retour, parce que le retour pourra se faire. Ne pas oublier qu'en 1959, le Royaume-Uni crée l'Europe des Sept, l'AELE, et dès 61, change d'avis et rentre dans le marché commun. Donc ce scénario,
parce qu'à l'époque, ils étaient
pragmatiques,
ce scénario
Macmillan peut venir. Ouais. D'autres scénarios historiques peuvent se passer. Je pense au scénario qu'on pourrait appeler Cymbeline, de la pièce de Shakespeare en 1611, où le roi des Bretons, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, veut sortir de l'Empire romain. Et après toutes sortes de jours, de péripéties, avec sagesse, il dit, finalement, l'Empire romain, c'est bien, et je continue à payer l'impôt. Donc, c'est ce qui peut se passer avec le second référendum. Les populistes disent, il y a eu un référendum, on peut pas revenir sur le vote populaire. Et comme dit Édouard Herriot, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Or, le peuple n'est pas forcément imbécile. Donc, il faut peut-être que les populistes fassent confiance au peuple. Seul le peuple peut défaire ce que le peuple a décidé. Et dans ce cas-là, on se retrouve dans le scénario de Cymbeline de Shakespeare. La raison l'emporte et le peuple a le droit de changer d'avis.
On se retrouve aussi, Florence Fauché, dans la chanson Hotel California, qui est cet hôtel dont on n'arrive jamais à sortir. Et là, on se demande comment Theresa May, qui elle voulait rester, qui ensuite fait campagne pour sortir, pour essayer en fait de maîtriser son propre parti, elle n'y arrive pas. Est-ce qu'on peut imaginer que vous nous rappeliez que les travaillistes seraient incapables de gagner les élections si élections il y avait ? Est-ce que Theresa May peut rester au pouvoir ou est-ce qu'on va voir Boris Johnson, donc l'ancien ministre des Affaires étrangères, le troublion, il a été journaliste à Bruxelles, il paraît qu'on se souvient encore de ses phrases, il a changé de coiffure, il a coupé ses cheveux, donc il paraît que... voilà, il est moins agité, néanmoins, sérieusement, est-ce qu'on peut imaginer qu'à la tête, que la tête même du Parti conservateur change ?
Theresa May est un leader faible. Elle est arrivée au pouvoir par défaut. Et en grande partie parce qu'elle apparaissait comme un dirigeant potentiellement relativement calme et sûr dans un contexte de forte division et à un moment où Cameron avait démissionné. Elle est faible
donc
parce...
Elle était l'une de ses ministres et Monsieur Cameron et George Osborne, qui était le ministre des Finances de l'époque, ne cachaient pas un certain mépris de classe, n'est-ce pas, donc de grands bourgeois sortis des meilleures écoles, vis-à-vis de cette fille de pasteur. C'était assez perceptible.
Absolument, mais elle était aussi faible parce qu'elle a dû prendre en quelque sorte le relais de, et intégrer au sein de son gouvernement les ministres, des ministres brexiteurs. Elle a été pour ce qui fait qu'un leader est fort dans un parti conservateur, c'est sa capacité à remporter les élections. Après avoir promis qu'elle n'organiserait pas d'élections en 2017, elle a organisé des élections, ce qui était déjà un retournement en quelque sorte, puisque maintenant les élections, les mandats britanniques sont fixes. Elle a organisé des élections qu'elle pensait gagner et qu'elle a perdues. Sa majorité a décru. Donc c'est en grande partie aussi pour ça qu'elle se retrouve à présent dans une absence de majorité et à devoir négocier avec le DUP.
Mais néanmoins, elle est là et elle reste.
Néanmoins, elle est là et elle reste, en partie parce que ses opposants internes, les Brexiteers, qui ont essayé de se débarrasser d'elle en décembre, qui ont organisé un vote interne pour changer de leader et ont perdu, n'arrivent pas davantage à se mettre d'accord pour trouver un remplaçant.
Non, et en plus, je crois que la procédure parlementaire fait qu'ils ne peuvent plus la sortir du jeu pendant un an.
Absolument.
Voilà, c'est quand même un système merveilleusement complexe.
Elle a promis qu'elle ne ferait pas campagne une nouvelle fois. Donc on peut s'attendre à ce qu'elle démissionne avant d'autres élections, mais elle ne va pas démissionner à la veille d'élections, puisque son parti devrait organiser des élections internes.
D'accord, mais là on en vient à se dire que finalement... La situation de nos démocraties, dans leur diversité d'ailleurs sur le continent, sont relativement plus limpides. Robert Frank, d'un mot, vous avez cité Shakespeare tout à l'heure. Une formule peut-être en guise de conclusion provisoire.
En guise de conclusion provisoire. Bon, le Brexit, je crois, est une affaire importante. Comme on l'a dit, divise la société britannique comme jamais elle l'a été. D'une certaine manière, elle montre un contraste pour l'Europe. Hein. L'Europe va mal. Mais qu'est-ce qui va mal en Europe ? Ce sont les sociétés européennes qui vont mal. C'est la montée des populismes. L'Union européenne, du même coup, est un peu fragilisée, mais peut-être faut-il faire distinguer l'Union européenne de l'Europe. L'Union européenne, finalement, montre une certaine unité. Hein. Et on peut comprendre cette unité de la façon suivante, c'est que les populismes continentaux, les populistes continentaux ne peuvent pas être solidaires des populistes britanniques. Donc là, il y a bien une lueur d'espoir. L'Union européenne est finalement plus forte qu'on le croit. Et dans la campagne qui vient, c'est vrai que les référendums qui sont réclamés à corps et à cri montre qu'il ne donne pas toujours les bonnes solutions. Celui de 2016 l'a montré.
C'est la leçon de choses, voilà. La leçon de choses du Brexit. Donc merci à vous, Robert Frank. Vous venez de publier chez Belin et vous allez signer ce livre au stand des éditions Belin dans quelques minutes. Un livre donc sur les Britanniques et l'Europe du XVIIe siècle jusqu'au Brexit. Merci à vous, Florence Fauché. Vous avez coécrit les rituels de vote en France et au Royaume-Uni dans la revue française de Sciences Politiques. Vivien Pertuso, Un monde de rupture, c'est le papier très intéressant que vous avez publié dans le Ramsès 2017, publié chez Duno, donc le Ramsès de l'IFRI. Merci à Adrien Rod, maître de conférence en civilisation britannique et du Commonwealth à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et aussi à l'université Versailles-Saint-Quentin. Merci à notre ami Charles Grand du CER. Luc-Jean Reynaud était à la réalisation ce matin avec Élise Leu à la technique et aussi Martin Guénard, Sébastien Huel, Rémi Gouriot. Merci à eux. Merci à Meryl Moneghetti qui a préparé cette émission ainsi que Marion Barsac. Et dans quelques instants, comme tous les samedi et ici en direct au Salon du Livre à Paris. Voici Hervé Gardette. Très bon week-end et à samedi prochain.